besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Et pour ouvrir le bal, nous allons accueillir Stéphane qui est à Plouescat ce matin. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Stéphane, bonjour. Qui ne compte pas encore les prunes, mais qui ne devrait tarder d'ailleurs, les prunes, non?
Ah, justement, c'est ça le problème.
Ah.
C'est que je les attends. Je les attends de pied ferme. Disons que j'ai planté un prunier greffé, et la première année, deuxième année, il a donné quelques prunes, et depuis, plus rien. Et j'ai l'impression que c'est le plan, en fin de compte, c'est pas la partie greffe qui pousse, mais c'est celui qui est en dessous.
Alors, vous l'avez planté seulement, donc la première et la deuxième année, il a produit, c'est curieux, parce que généralement, les pruniers, il faut attendre 3-4 ans, Philippe, non?
Oui, mais alors justement, il a dû se passer un truc, un phénomène, alors vous dire lequel, là, spontanément, je vois pas trop. Mais effectivement, lorsqu'on met un prunier dans des bonnes terres, et souvent en Bretagne, on a des bonnes terres, mais qui ont tendance à être acides, et le prunier aime bien les argilo-calcaires. Donc, il faut faire attention à lui apporter suffisamment de calcaire, donc de calcium. Mais il y a aussi que quand la terre est bonne, le porte-greffe, qui est souvent du prunier Saint-Julien, pas forcément, mais souvent, a tendance à partir explorer le monde sans s'occuper complètement de son greffon. Et effectivement, il part un petit peu comme un fou. Et très souvent, si on ne fait pas attention, il éjecte carrément le greffon. Donc, il faut vraiment, tous les ans, au printemps, on va dire... vraiment fin d'hiver, début de printemps, c'est-à-dire fin février, début mars, on enlève systématiquement tout ce qui serait resté l'année dernière, et puis on surveille au fur et à mesure que des jeunes rejets démarrent à la base, on supprime au fur et à mesure pour empêcher ces gourmands, parce que c'est rien d'autre que des gourmands, de se développer au détriment de la partie qui est greffée et qui, elle, demandera les prunes que l'on attend et celles que l'on a achetées, effectivement. Donc, si vous faites bien attention à ça, que vous faites un apport de carbonate de chaux sous forme de merle, par exemple. L'avantage du merle, c'est qu'on en met que tous les 3 ans et ça suffit largement. Alors, dans des proportions vraiment raisonnables, c'est-à-dire qu'on est sur 100 grammes au mètre carré et on n'étale qu'en pourtour de la frondaison de l'arbre, c'est-à-dire vraiment à la plomb du bout des branches. Et là, sur une bande à peu près 50-60 cm, on calcule donc la surface que ça fait et on met à raison de 100 grammes par mètre carré par an. Ça suffit largement. Et si vous en mettez pour 3 ans, ben vous ne mettez que, si je puis dire, 200 grammes et ça va durer 3 ans et ça va apporter la quantité de calcium dont le prunier a besoin pour fructifier correctement. Donc si vous gérez les deux, et enlever les gourmands et apporter suffisamment de calcium, normalement vous devriez avoir des prunes qui reviennent.
Et donc là, parce qu'il s'est bien développé, le pépère, il montait pratiquement à 1 mètre maintenant, à 1 mètre 50, je pourrais...
Alors, excusez-nous, parce que le téléphone passe mal, là, actuellement.
Je suis dans une zone un peu basse. Je disais, est-ce que je peux récupérer quand même la partie prunier en faisant la partie porte-greffon?
Ah bah, de toute façon, la partie porte-greffe, faut la supprimer systématiquement, hein, quelle que soit la période en plus. Donc, enlever, couper à ras, éventuellement cicatriser si c'est des coupes plus grosses que le petit doigt. Donc, cicatrisation avec un petit peu d'argile, hein, ça suffit largement. Mais il faut absolument supprimer tous les gourmands à la base pour que ça soit le greffon qui se développe et non pas le porte-greffe.
Voilà Stéphane, on vous souhaite une belle journée, à très bientôt. N'oubliez pas, n'oubliez pas le calcium. Bon, on peut pas lui mettre.
Oui, et puis on va couper.
Ouais, c'est ça.
Ouais, oui.
Allez, bonne journée.
Merci, à bientôt. Alors, le prunier qui a besoin de calcium, on peut pas lui mettre du lait à la place de l'eau, Philippe. C'est pas possible.
Non, je suis pas sûr qu'il puisse absorber le calcium du lait. Pas sûr. Quoique, ça vaudra peut-être le coup d'essayer.
À tester. Nous filons à Brest chez Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour messieurs.
Alors Thierry, vous, c'est des abeilles que vous avez au jardin, c'est ça?
Alors, j'ai un problème, oui, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, j'ai des abeilles qui essayent de nicher donc derrière mes gouttières vers le cache-moineau de mon toit. Mmh. Alors, il y en a quelques-unes qui arrivent à rentrer. Alors, je ne sais pas si elles nichent, je ne pense pas. Et chaque année, j'essaye de mettre du... Alors, je fais une décoction avec de l'ail des ours, des huiles essentielles, eucalyptus, géranium, golteri. Alors, en général, ça marche. Mais cette année, j'avoue que ça n'a pas l'air très efficace et qu'elles essayent vraiment de rentrer sous les gouttières et je sais pas ce qu'elles vont faire, quoi. Voilà le problème. Alors je voudrais pas avoir une ruche dans mon toit, quoi. Ça m'embêterait.
Remarquez, pour avoir du miel dans les gouttières, vous récupérez en bas, c'est bon, hein, ça peut marcher.
Surtout que je prends mon petit déjeuner en dessous, donc...
Le miel en direct, vous avez juste à attendre la tartine et c'est bon. Alors, en fait, moi, je pense que plutôt que de faire des salades avec toutes vos huiles, hein, ça serait mieux d'essayer de trouver par où elles rentrent et de vraiment boucher avec des joints silicone.
J'ai essayé, mais c'est un peu inaccessible, c'est casse-gueule, et j'ai mis du scotch et tout, mais malgré tout, il y a quand même des tout petits trous, je pense, où elles essayent de rentrer, quoi.
Bah peut-être, comme vous dites, si c'est dangereux, peut-être faire intervenir un couvreur avec un échafaudage de manière à travailler dans des conditions de sécurité correctes. Et là, effectivement, aller boucher systématiquement les trous. Parce que si ce sont des abeilles à miel, donc l'abeille Apis mellifera, c'est vraiment effectivement des ruches. Après, si ce sont des abeilles sauvages, j'aurais besoin de photos pour faire la différence. Si c'est des abeilles sauvages, il n'y a pas de problème, elles ne font qu'une case, qu'une loge, et puis elles se reproduisent comme ça d'un an sur l'autre, donc il n'y a pas de ou très peu d'agrandissement, et c'est pas des ruches, il y a deux pontes par an, une au printemps, une à l'automne, et puis la petite abeille, quand elle naît, elle va polliniser, et puis elle se reproduit, elle meurt, donc c'est pas des bestiaux enquiquinant du tout, mais bon, faut d'abord savoir qui est qui, et puis c'est vrai que si c'est juste au-dessus, si c'est dans la maison, l'habitation, vaut mieux qu'elle ne soit pas là. Donc, vaut mieux faire vraiment bien boucher tous les trous. Comme ça, vous serez plus enquiquiné.
Et si c'était des abeilles à ruche, est-ce qu'elles viendraient vraiment très, très nombreuses? Parce que là, il y a 2-3 abeilles qui tournent autour, qui arrivent à rentrer, mais je ne sais pas si c'est les mêmes, évidemment. Ou est-ce que si c'était vraiment des abeilles à ruche, il y aurait beaucoup, beaucoup d'abeilles qui tourneraient autour de la gouttière?
Quand c'est des abeilles, donc Apis mellifera, il y a les éclaireuses qui viennent chercher, donc il va y avoir un essaim qui va se former dans la ruche, donc il y a des éclaireuses qui viennent chercher un endroit pour pouvoir habiter, si je puis dire, et une fois qu'elles ont trouvé l'endroit, c'est un essaim complet qui arrive. Donc a priori, ce n'est pas votre cas, donc je pense que vous êtes plutôt sur des abeilles solitaires.
D'accord.
Voilà, donc c'est moins embêtant, par contre ça fait moins de miel, pour la tartine c'est embêtant.
Oui, pour le petit déjeuner. J'ai un buis qui a des cloportes à l'intérieur, mais vraiment il est envahi. Alors est-ce que je laisse les cloportes ou est-ce que c'est il faut les enlever?
Vous laissez les cloportes parce que les cloportes ne sont pas du tout équipées pour manger du vivant. Ils sont équipés que pour manger des détritus. Donc, ils ont trouvé des trucs des détritus à manger, les feuilles mortes, par exemple. Et donc, ils mangent les feuilles mortes, mais ils n'attaquent pas le buis.
Voilà. Bon, donc laissez tomber les cloportes et on s'occupe des abeilles.
Ouais. Merci beaucoup.
Vous n'êtes pas le seul à être envahi par les ruches, je peux vous le dire. Allez, belle journée à vous.
Ouf. Au revoir.
On va filer du côté de l'Empole Florazel parce que il y a évidemment Louise Lempire qui nous attend là-bas depuis ce matin et qui nous propose de nous faire vivre en direct les joies du réveil des festivaliers.
France Bleu Brésil, en direct du festival Les Petites Folies.
Louise, où êtes-vous là actuellement ?
Je suis dans le village camping Laurent, donc j'ai un peu quitté les festivaliers, sauf les premiers réveillés qui sont en train de nous rejoindre pour venir chercher leur petit déjeuner. Et je me rapproche de la grande tonnelle centrale côté bénévole. Bonjour, comment vous faites pour vous préparer pour cette deuxième journée de festival ?
Bonjour, alors déjà on prend un paracétamol.
Bah ouais, vous aussi.
Oui, bah c'est important. Vous savez, on vient de se réveiller. Comment on fait pour se préparer? Nous, de notre côté, on se prépare en essayant de mettre en place le café, tout ça pour les festivaliers. Après, je pense que les festivaliers, c'est pareil, paracétamol. Et ils y vont tout doucement. Ils mettent une botte, la deuxième. Et puis voilà, et je crois qu'ils essayent de prendre des douches, des choses comme ça pour reprendre force humaine.
Votre prénom?
Germain.
Merci beaucoup, Germain. Donc, on a le côté café juste ici. Et si je me retourne derrière, on a le côté petit-déj boulangerie. Bonjour, France Bleu Braise-Gisèle. On est en direct à la radio. Je fais le tour du village camping. Et vous, vous êtes la croustine. C'est vous qui assurez le petit-déj des festivaliers?
Tout à fait. Ouais.
Vous êtes là tous les trois jours?
Samedi et dimanche.
Le lundi, non. Vous savez que c'est quand même une grande responsabilité d'assurer le petit-déj des festivaliers qui sortent tout juste de leur tente.
C'est pour leur bien. Il faut éponger un peu. Hein.
Alors, vous proposez quoi, là, ce matin, pour les petits-déj?
Alors, petit pain chocolat, croissant et baguette.
Voilà. Avec des festivaliers plus qu'heureux de pouvoir venir goûter les friandises. Merci beaucoup, puis bon festival à vous. Et puis, je continue de traverser, Laurent, parce qu'il y a du sucré, c'est vrai, il y a du café, mais il y a aussi toute la partie salée qui est en train de se mettre en place, parce que ce matin, je vais vous emmener un peu dans les entrailles de ce village camping. Tout à l'heure, on fera du karaoké, mais d'abord, je me rapproche de la partie sushi. Bonjour, la partie sushi. Bon, attendez, je tends le micro par-dessus le comptoir. Et comment vous appelez, monsieur?
JP.
C'est vous qui gérez donc tout ce stand sushi?
Exactement.
Il n'y a pas que des sushis.
Non, on fait yakisoba, ramen et curry japonais.
Et comment on fait pour venir vous trouver si on est sur le festival?
Eh bah, bien, poser la question à la production des Petites Folies.
Non, il faut traverser le camping. On rentre, c'est ça, on rentre dans le camping?
Il faut traverser le camping et c'est vraiment tout au fond du camping campeur que vous pouvez trouver un bar Coref et Foodanka et également Urban Sushi Truck.
On vous souhaite une belle deuxième journée.
Merci beaucoup.
C'est quoi le sushi le plus sexy?
Ah, c'est quoi le sushi le plus sexy, me demande Laurent.
Très bonne question. Qu'est-ce qu'il en pense?
C'est lequel votre préféré, Laurent?
Ah, j'en ai pas de préféré de sushi.
Ah, pas de préféré pour Laurent. Bon, alors un petit conseil.
Goûtez, Laurent.
C'est juste
un clin... venir tout goûter. Ouais, rendez-vous pris, Laurent.
Un clin d'œil au groupe Sexy Sushi. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce groupe. Mais voilà, on parle de musique, on parle de Lampol Ploarzel. Merci beaucoup, Louise. On va continuer d'évoquer le jardin avec Philippe Munier tout de suite.
Le festival Les Petites Folies, un événement France Bleu Braise-Gisel.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Tu sais Chantal, c'est un peu petit chez nous, on déménagerait bien mais on adore notre maison. C'est vrai que c'est petit mais on l'adore cette maison.
Ah bah oui, mais là t'es en boucle hein ma chérie.
Ouais, elle est trop petite.
Chez Akena, ils ont un nouveau modèle de véranda. C'est une véritable extension de maison, plafond plat, isolation, c'est exactement ce qu'il te faut. Allez, on va sur akena.com et on arrête de déprimer.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Et on poursuit à 9h30 donc avec les questions, après les abeilles, après les pruniers, on s'intéresse aux rosiers du côté de Pluguffan, des rosiers de Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'ils ont vos rosiers?
Eh ben ils sont moches.
la beauté est relative. Hein. Ils sont moches. Bon. Ça veut dire quoi? Ils font pas de fleurs, c'est ça?
Si, si, ils font des fleurs, mais les feuilles sont toutes tachées. Il y a des pucerons. Mmh. Et, les pucerons on traite. Et en fait, on se posait une question à savoir si c'était pas parce qu'on avait paillé. Parce que d'une année sur l'autre, on s'est mis à pailler des rosiers et on pense que c'est depuis ce temps-là.
Mais vous avez paillé avec quoi?
Avec tout ce qu'on trouve, qu'on broie dans le jardin, la haie, les feuilles, des arbres qu'on abat sur le talus, enfin bon, voilà.
Bon, les pucerons, est-ce que ça viendrait du paillage, Philippe?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a deux choses. Il y a d'une part les pucerons, qui en général, s'installent sur des plants qui sont en sève, qui sont très en sève. Vu qu'ils se nourrissent de sève, plus la plante donne de sève, plus ils s'installent. Et en général, c'est donc des plants un peu trop nourris. Et puis, il y a la deuxième chose, les feuilles qui deviennent moches, qui se tachent de noir, qui deviennent toutes jaunes, qui tombent. Ça, c'est la maladie de la tache noire. C'est un champignon. Donc, il y a un ravageur, un champignon qui vous casse les pieds. Alors, en ce qui concerne le ravageur, je pense que le paillage peut en partie être la cause, en partie simplement parce que du paillage, c'est pas une grosse nourriture, donc ça n'implique pas des grosses quantités de sève. Par contre, ça garde beaucoup d'humidité, donc ça peut être un peu dû à ça. Donc, il faut peut-être en mettre moins épais, tout simplement. Garder le paillage, parce que c'est une bonne astuce pour garder la fraîcheur, pour avoir moins de désherbage à faire. Par contre, peut-être qu'il y en a un petit peu épais, donc juste faire attention à diminuer l'épaisseur, mais surtout garder le paillage. Et faire très attention de ne pas mettre au pied des rosiers du paillage de taille de haie. J'ai entendu taille de haie. Si c'est des haies de ce qu'on appelle communément du sapin, qui dans la plupart des cas sont des cupressus, donc des cyprès, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le tout, c'est que c'est des plantes qui font des humus qui sont acides. Et le rosier déteste l'acidité, donc ça risque de
Il n'y a pas de résineux dans le paillage.
D'accord, ok. Donc s'il n'y a pas de résineux, c'est bon. Donc on diminue la quantité, simplement, l'épaisseur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que la maladie de la tache noire, c'est un champignon, on pulvérise tous les 8-10 jours régulièrement dès la fin mars. Hein, donc là, ça fait déjà un certain temps qu'on aurait pu que commencer. Une pulvérisation d'eau bicarbonaté, c'est-à-dire qu'on met une cuillère à café d'eau dans un litre de cuillère à café de bicarbonate dans un litre d'eau. Hein. Vous agitez bien, vous pulvérisez les feuilles en commençant par le dessous des feuilles avant le dessus. Et en faisant ça tous les 8-10 jours, normalement, la maladie de la tache noire, elle se développe pas et donc les feuilles sont belles. Et comme vous avez mis moins de paillage, le rosier a moins à manger et donc il y a moins de pucerons, voire pas de pucerons du tout.
D'accord, bah on va essayer ça.
Voilà. Patrick, on vous souhaite une belle journée. Profitez,
merci beaucoup, hein, à vous.
Profitez bien des beaux jours qui arrivent pour s'occuper des rosiers. Merci. Willy est avec nous du côté des Côtes d'Armor à Plourard. Bonjour Willy.
Bonjour Laurent, bonjour Philippe.
Quelle est votre question ?
Eh bien voilà, donc j'ai un étang qui fait 30 mètres cubes sur 30 mètres carrés de surface. Et j'ai donc un Myriophyllum aquatica qui est occupé à prendre une extension incroyable. Il est déjà plus de la moitié de l'étang. Mais le problème, c'est que il a des très longues. Elle est devenue presque 90 cm de long. Donc j'ai une petite centaine de poissons qui sont cuissons là-dedans, et il y en a déjà une dizaine qui sont morts. Alors je me suis intéressé sur internet pour voir ce que c'était que le Myriophyllum, et donc c'est une plante qui donne de l'oxygène. Mais si en contrepartie avec son extension elle m'en prend, elle me bouffe l'oxygène de mes poissons. Voilà, alors je voudrais demander à Philippe qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce que je peux faire.
Alors effectivement, le myriophylle, c'était une plante que l'on met même dans les aquariums pour apporter un peu plus d'oxygène, puis en plus c'est joli. Mais quand il y en a trop, on arrive sur des phénomènes de ce qu'on appelle d'eutrophisation, ou de dystrophisation d'ailleurs, qui risquent effectivement de pomper l'oxygène et de faire mourir les poissons. Vous avez très bien décrit le problème. Alors la solution, c'est tout simplement d'enlever ce qu'on peut enlever, sachant que de toute façon on n'enlève jamais tout, donc il va repousser derrière, donc il va faire la partie qui va repousser va faire son travail d'oxygénation, et si vous empêchez d'avoir trop, eh bien du coup ça va, vous allez par votre action, vous allez limiter les problèmes. Il y a une autre astuce qui est beaucoup plus difficile à gérer, mais qui peut se faire aussi, c'est de mettre des consommateurs de myriophylle, donc que ça soit des gastéropodes. On trouve certains gastéropodes qui mangent que des végétaux, ou certains poissons comme la carpe amour de la carpe du fleuve Amour, qui est un végétarien. Mais après, il faut que l'un ou l'autre accepte d'abord de manger myriophile, et des fois ça marche pas, et d'autre part ne deviennent pas pullulants eux non plus. Donc c'est toujours, il y a toujours une question d'équilibre à gérer, et l'équilibre aquatique n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Donc faites des essais. Il y a un truc aussi qui permet de bien nettoyer, c'est les canards. Les canards adorent le myriophile. Donc voilà, mais vous n'avez pas forcément envie d'avoir des canards sur votre bassin. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut gérer. C'est vous qui le faites avec vos petits bras et vous focardez, ce qu'on appelle. Donc vous enlevez l'excès. Soit vous faites aider par des animaux, mais en sachant que arriver à trouver le juste milieu, le juste équilibre entre tout ça, c'est pas toujours évident. C'est même carrément difficile.
Ouais. Ben, j'ai commencé en fait par enlever une partie du myriophyllium que j'ai mis à l'extérieur du bassin, bien sûr. Mais bon, est-ce que je peux continuer à faire ça, parce que ça prend une extension incroyable?
Ben, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Alors, d'une part, il faut aussi faire attention, c'est qu'un bassin qui n'est pas assez profond, la totalité du bassin va être attaquée. Si vous faites des endroits plus profonds, les myriophiles ne s'installent pas sur les parties profondes, donc ça permet de limiter les surfaces attaquées. Mais si... actuellement, là, dans l'état actuel des choses, la meilleure solution, c'est d'enlever tous les 15 jours, toutes les semaines, sachant que ça va très bien au compost, hein, et que ça fait un très bon compost. Donc, n'ayez pas peur, vous le compostez, comme ça permettra d'amener du bon compost au jardin, voilà, et de faire des légumes avec une plante casse-pied.
Voilà, Willy. Sinon, il n'y a plus qu'à acheter des canards.
Voilà. Très bonne journée à vous deux et à tous les auditeurs de France Bleu.
Merci beaucoup. Belle journée. La suite de vos questions dans quelques instants. Puis on partira du côté de l'Empole Plouarzel avec Louise Lempire pour vous faire vivre la première journée de ce réveil pour le Festival des Petites Folies. En attendant, je vous propose de nous replonger dans nos souvenirs en 1962 avec une jeune fille qui nous propose une balade triste, tellement triste d'ailleurs que la maison de disque n'y croit pas. Le succès sera une grande surprise pour Françoise Hardy.
Toutes les chansons de votre vie sont ici, sur France Bleu.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Quand on pour moi brillera le
connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Premier succès de Françoise Hardy en 1962. Ce tube lui permettra ensuite de faire carrière, car tout le monde la connaît à partir de 1962. Tout le monde lui prête l'oreille à Hardy.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite. 02 98 53 65 65.
On retourne au jardin. C'est un festival ce matin. Louise est avec nous à Plestin-les-Grèves. Bonjour Louise.
Oui, bonjour. Écoutez, j'ai un problème avec mon rhododendron parce que toutes les fleurs ont fané en 24 heures. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'autour de moi, il y a des magnifiques rhododendrons chez les voisins ou ailleurs et le mien, il a fané d'un coup.
Oui, les intempéries de ces derniers jours, je crois qu'ont été assez sévères hein, pour tous les massifs un peu fleuris, Philippe, non?
Alors ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être effectivement une grosse averse qui fait tomber tout le monde. Ça peut se faire. Ça peut être.
Elles sont fanées.
Ça peut être une alternance, un orage, un coup de soleil un petit peu trop vif. Ça sur la fleur de rhodo, surtout si les rhodos est à la lumière, ça peut marcher aussi parce que le rhodo c'est surtout une plante d'ombre. Donc quand il y a beaucoup de lumière derrière un épisode pluvieux, ça peut provoquer ce genre de choses. Et puis, oui. ce qui serait beaucoup plus embêtant, alors ça, j'espère que c'est pour vous l'un ou l'autre, ce qui serait beaucoup plus embêtant, c'est que ça serait un champignon qui attaque votre rhodo. Et en général, effectivement, la première chose qu'il fait, c'est d'attaquer les racines. Du coup, il n'y a plus assez d'eau qui arrive. Donc, les fleurs fanent plus vite. Et puis ensuite, c'est les feuilles qui se mettent à pendre lamentablement. Et au bout de.
Ah non, les feuilles sont très bien. Il y a même des jeunes pousses. Hein. C'est ouais. Que les fleurs, en fait.
Alors si c'est que les fleurs, c'est vraiment, et que j'espère pour vous que ça va durer, c'est vraiment un problème d'alternance pluie-soleil. Et si, il est beaucoup à la lumière ou il est plutôt à l'ombre?
Il est à la lumière du matin, tout le matin, et après il est un peu à l'ombre.
D'accord.
Donc, il est cassé par une haie, donc...
Ouais, mais il suffit simplement qu'il ait eu, je vous dis, beaucoup de pluie et un coup de soleil fort le lendemain matin. Et ça peut faire brûler les fleurs en très peu de temps. Donc,
et ça va refleurir ou pas dans la saison?
Ah non, le rhodo, ça fleurit une fois par saison. Des fois, il y a une petite remontée au mois de septembre, voire même octobre. Mais c'est une toute petite remontée, c'est très très léger.
Oh, c'est dommage, il était tellement beau.
Ah, mais de toute façon, le rhodo a quand même une sale manie, c'est effectivement de perdre toutes ses fleurs d'un coup. Ça fait vraiment un choc à chaque fois. On dit, ah, il était tellement beau hier, et puis le lendemain, il est tout moche, quoi. Bon, c'est comme ça, il faut s'y faire.
Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Une belle journée, Louise. C'est peut-être pour ça que Sim nous disait qu'il haïssait les rhododendrons.
Peut-être.
Direction le Morbihan pour nous retrouver aux Faouettes, Françoise, ce matin. Bonjour, Françoise.
Oui, bonjour.
Françoise. Ouais. Françoise qui se soigne
à l'eucalyptus. Un eucalyptus.
Un eucalyptus, ouais.
Donc la variété, c'est Baby Blue, Bunny Baby Blue, je crois. Mmh. Et là, il est devenu affreux parce que il est décharné. Il n'y a plus de feuilles, pratiquement. Il y a des branches en cassé à chaque fois qu'il y a eu un orage ou des grosses tempêtes. Donc, il a vraiment une allure minable. Voilà. Donc, je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut le tailler, le rabattre complètement ou quoi? Voilà.
Il a quoi? Il a le baby blues, le baby blue?
Oui, je sais pas.
Alors, justement, ce qui est bien normalement dans Baby Blue, c'est que c'est un petit eucalyptus guni. Au lieu d'être un grand, c'est un petit, il reste petit. Il garde beaucoup plus longtemps ses petites feuilles rondes et bleutées. Oui. Et normalement, le but du jeu, c'est qu'on peut ne pas le tailler. Alors d'après ce que vous décrivez, il est tellement moche que vous voudriez le tailler. Donc on est un petit peu dans un paradoxe. Ce qu'il faudrait essayer de savoir, c'est pourquoi il est moche. Parce que normalement, il devrait être beau.
Hein, c'est peut-être pas un guni, c'est un... il est quand même assez grand, hein. Il fait bien 3 mètres quand même, mais bon, apparemment, il grandit plus. Oh oui, plus de 3 mètres, même 3-4 mètres, c'est facile.
Non, mais ça, c'est pas beaucoup, ça. Pour un eucalyptus, c'est rien, c'est 35 mètres, un eucalyptus. Ouais, hein, donc, ouais, donc, effectivement, alors c'est même pas un guni, a priori, c'est un pulverulenta, si les feuilles sont légèrement comme poudrées. Mais sinon, il y a aussi le guni, le baby blue. Les deux variétés existent, donc je ne sais pas lequel des deux vous avez. On a l'impression que les jeunes feuilles sont comme poudrées, c'est un pulverulenta. Si, au contraire, les feuilles sont vraiment d'un beau petit bleu, c'est guni, baby blue. Mais je vous dis, dans les deux cas, de toute façon, les deux sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leur petite taille.
Oui.
Donc, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de lui donner des conditions de vie adéquates pour qu'il soit joli en plus et que vous ne posiez pas la question de « est-ce que je dois le tailler ?» alors que normalement, ils ont été sélectionnés pour ne pas être taillés. Hein. Donc, voilà. Donc, essayez peut-être de faire une petite taille de nettoyage pour commencer. Petite taille de nettoyage, hein, juste enlever tout ce qui est inférieur au diamètre de votre petit doigt. Hein, vous avez le droit, et que vous trouvez moche, mort, etc. Pas faire de grosse taille dans un premier temps, essayer de voir comment il va réagir, lui donner à manger, hein, faire un bon apport de compost au pied, et puis de voir comment il va évoluer, faire attention à l'arrosage, parce que en démarrage d'eucalyptus, il a besoin d'un petit peu d'eau, après il se débrouille tout seul.
Il a 10 ans environ, hein, il a une dizaine d'années, donc là vraiment, la plupart des branches sont sans feuilles, il n'y a plus rien, et les feuilles qui sont toutes noires.
Mais il n'a pas ramassé des vents de mer, des vents salés?
Ah non, on est dans le Morbihan.
Au Faouette, on est assez à l'abri.
Au Faouette, oui, c'est effectivement. Quoique, bon, avec les tempêtes, des fois, on sait que le sel va très loin. Mais c'est vrai, c'est vraiment un petit peu étonnant, là.
Il n'est vraiment pas beau.
Je vous dis, commencez déjà par faire une petite taille. Une taille de nettoyage qui peut être fait encore maintenant, c'est un petit peu tard, mais bon, tentez le coup quand même. Et surtout d'enlever tout ce qui est moche, tout ce qui est mort, surtout.
Toutes les branches qui n'ont plus de feuilles, qui sont mortes, quoi, pratiquement, il faut les enlever.
Alors, si vous enlevez toutes les branches, ça va pas être joli, ça va faire un totem. C'est pas la peine de le mettre encore plus minable. Donc, si les branches qui n'ont pas de feuilles, coupez-les éventuellement, diminuez-les d'un tiers pour commencer, pas plus. Hein, je vous dis, faut jamais que ça soit plus gros que le diamètre de votre petit doigt. Hein, d'accord ? Vous faites une taille comme ça, et puis vous lui donnez bien à manger, et puis vous regardez comment ça se passe le reste de la saison. Et s'il continue à être moche, après, il y aura peut-être une décision à prendre.
Voilà, Françoise, prenez bien soin de votre eucalyptus avant qu'il ne prenne soin de vous. Merci beaucoup, belle journée aux Faouettes. Philippe, vous restez avec nous, on a encore quelques questions à vous poser dans quelques minutes. Ce sera juste après le retour des Silencers, de retour avec un nouvel album. Les Écossais sont là, dans votre radio, avec cette nouvelle chanson, Rabbit.
Hey baby, won't you pardon me? Please be kind, don't be too hard on me. I'm stumbling in a black night, the windows open to an evil eye. The river beckons to the boy inside, he threw his pebbles into the tide. I'm mumbling in a black night, a blind rabbit in the I'm
Les Silencers, le coup du lapin, c'est Rabbits sur France Bleu Brésil.
Le Stade Brestois et le FC Lorient font tapis ce week-end. C'est la 34e et dernière journée de Ligue 1, celle qui décidera définitivement du sort des Tisef et des Merlus. Celui des Brestois sera européen, quoi qu'il arrive. Reste à savoir à quelle Coupe d'Europe les Tisef participeront. Soit la Ligue des Champions, soit la Ligue Europa. Ça dépend en partie de leur résultat à Toulouse, mais aussi de celui de Lille contre Nice. Alors que le destin des Lorientais s'annonce, lui, en Ligue 2. Il faudrait deux miracles, un carton contre Clermont et que Metz prenne le bouillon face au PSG. Toulouse-Brest et Lorient-Clermont, deux matchs à vivre dimanche 21h en intégralité avec nous.
France Bleu Brésil, radio officielle du foot en Bretagne.
Mathieu Gourmelin, as-tu déjà rentré un livre dans ta poche de cuisine, je précise, puisque tu fais la cuisine?
Alors, rentrer un livre dans ma poche, c'est possible. Un livre de cuisine dans ma poche, pas encore.
Eh ben ça y est, Philippe Emmanueli, enfin! On peut rentrer un livre de cuisine dans sa poche.
Et même plusieurs, si ça se trouve.
Mais il faut des grandes poches.
Ou des petits livres.
Ou alors, faut être un kangourou.
Est-ce que les kangourous lisent des livres de poche?
Bonne question. Il y en aura d'autres évoquées dans l'émission Panier de Crabe. Ça sera dimanche à partir de 10h.
Une question jardin? Notre expert y répond tout de suite.
Et avec Philippe Muni, il nous reste encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. On va faire un petit tour du côté de Carré, où Dominique a un magnifique conifère qu'on appelle le désespoir du singe. Bonjour Dominique.
Bonjour à vous, merci de prendre ma question. Oui, j'ai un grand désespoir du singe dans une maison que je viens d'acheter. Il mesure bien 17 mètres de haut. Et je voulais savoir s'il était utile de le diminuer en hauteur. Il me fait un peu peur avec les tempêtes qu'on a eues récemment.
Ouais, c'est vrai que ça monte haut. Hein. Je ne sais pas à quelle hauteur. Il est haut, le vôtre? Il fait combien? Vous l'avez mesuré?
Moi, non. Mais à vue d'œil, je dirais bien 15, 16, 17 mètres, je pense.
Ouais, ça peut atteindre 30 à 40 mètres hein, quand même. Hein. C'est pas un petit arbre. Bon, Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, en fait, si on les tête, c'est encore pire parce qu'il va repartir non pas sur un seul bras, si je puis dire, mais sur plusieurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule tête, il y aura plusieurs têtes. Donc, ça obligera à re-têter. Et pour aller dans le désespoir du singe, si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est pas très facile. Et je vous rappelle quand même qu'il paraît que nous descendons du singe, donc il faut faire attention. Donc, vaut mieux le laisser tranquille. Ça tient énormément au vent. Hein, et c'est une plante du Chili. Et au Chili, il y a beaucoup de vent. Hein, donc, du vent de mer là, venant du Pacifique qui peut être très méchant. Donc, moi, je crois que plutôt que de mutiler ce pauvre arbre qui a quand même une sacrée décoration dans un jardin, il vaut mieux lui ficher la paix et le laisser pousser tranquille.
Ouais, ça fait un bel arbre de Noël. Hein.
Fait un sacré arbre de Noël. C'est vrai que quand on veut le dessiner, enfin le décorer, je veux dire. En plus, on ne peut pas aller dedans, donc il vaut mieux avoir une nacelle et tout. Non, c'est compliqué.
Mais il n'a pas tant que ça de prise au vent, quand même, avec la forme.
Non,
de
justement, justement, c'est pour ça que c'est très, très costaud. Ça a une résistance au vent qui est exceptionnelle. Donc, je connais peu, et pourtant, dans certains grands domaines patrimoniaux, il y a toujours au moins un désespoir, un araucaria, vu que c'est son nom, il y a toujours au moins un araucaria, et j'en connais peu qui se soit cassé la figure, j'en connais même pas du tout.
Voilà, bah donc soyez rassurés, Dominique.
Bon, je vais le laisser tranquille alors. Merci bon. À vous.
Belle journée à vous. Merci. Merci Philippe Munier d'avoir été avec nous. On va retrouver Louise Lempire dans quelques instants. Peut-être avez-vous une petite idée, une proposition pour le printemps?
Une petite proposition. Alors, on est à la limite du pays brésonnec et du pays gallo. On est à l'Enlef. C'est demain. C'est organisé par l'association Le Cri des Brouettes. Et on sait que ça fait du bruit. Hein,
oui, bah oui. Surtout donc, quand on les graisse mal. Oui.
Voilà, exactement. Donc c'est le marché aux plantes autour du temple de l'Enlève qui est quand même un lieu tout à fait étonnant. Donc c'est demain. Alors voilà, préparez-vous, allez faire un petit tour demain. Et puis s'il y a des jardins à visiter à droite à gauche, n'hésitez pas. Il y a plein de jardins là aussi patrimoniaux qui ont le label Jardin Remarquable qui en général sont ouverts le week-end. Allez faire un petit tour.
Le cri des brouettes à l'Enlève. Merci beaucoup Philippe. Bon oui, bonne semaine. Ça, ah bah oui, ça me plaît ça.
Bonne semaine.
Merci, à samedi.
En direct du pays d'Iroise, les petites folies sont sur France Bleu Brésil.
Alors, samedi, vous serez avec Louise Lempire. Louise qui, ce matin, est au camping de Lampol-Plouarzel, le premier réveil des festivaliers du festival des petites folies.
premier réveil, Laurent. Et puis, entre les tentes, j'ai poussé la porte de Mimi.bzh. Donc, c'est des cosmétiques et des tisanes à base de plantes naturelles. Je suis donc avec Sébastien. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
C'est quoi, Mimi.bzh?
Alors, nous sommes agriculteurs et nous fabriquons des baumes et des sticks à lèvres et des huiles à partir de nos fleurs.
À partir de fleurs que vous produisez vous-même?
C'est ça.
Et alors, il y a quoi comme fleurs?
Donc on a du calendula, de la camomille romaine, de l'achillée millefeuille, de l'ortie, du géranium rosa, de la verveine.
C'est quoi les vertus de toutes ces feuilles-là?
Oh là là, il y a plein de choses. L'idée, c'est beaucoup de... comment dire... faire des crèmes pour la peau, donc pour la beauté, et pour les petits soucis, les petits accros, les rougeurs, voilà.
Si vous deviez en choisir une parmi toutes celles-là pour ces vertus, laquelle vous préférez?
Moi, c'est l'odeur du géranium rosa.
Pourquoi?
C'est trop beau, quoi. C'est trop beau, ça sent bon, c'est vraiment frais, et quand ça sort, c'est qu'il fait beau.
Mimi.bzh, Laurent, c'est en plein milieu du camping, pas très loin du village camping, avec Sébastien ce matin aux Petites Folies à Lampol-Ploirzel, et ça sent super bon sous la tente.
Ah bah, très bien, bah, continuez de vous faire plaisir au camping, parfait, on vous retrouve tout à l'heure.
Je vous emmène faire du karaoké, Laurent.
Ouais, on vous retrouvera à l'heure de l'apéro si vous le voulez bien. Je pense qu'au camping, ça va couler à flot à 11h, normalement ça devrait aller. On vous retrouve tout à l'heure, juste après le best-of, il sera 11h. Allez, profitez bien. À tout à l'heure.
Mathieu et toute sa bande, c'est pour la vie. En tout cas, ça fait un beau temps qu'il se le dit. Longtemps qu'il peut compter sur eux et pas mal de temps qu'il